Gratianopolis. Yvan Mazel, Rémi Vigneron. L'émission sur la métropole grenobloise. Radio Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième émission de Gratianopolis. Vous êtes bien sur Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro de Gratianopolis, votre émission mensuelle d'information et de débat questionnant l'évolution de la métropole grenobloise, on accueille Serge Gros, directeur du CAUE de l'Isère, le Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, et on va parler d'habitat. J'animerai cette émission et Yvan sera à la technique. Bonjour Yvan.
Bonjour Rémi.
On attaque tout de suite avec une présentation de l'émission du jour par Yvan.
Lors de nos deux premières émissions, on a retracé l'histoire de l'urbanisation de Grenoble et on s'est attaché à comprendre les dynamiques de mobilité. Aujourd'hui, on va effectivement s'intéresser à la question de l'habitat. Dans quel type de quartier habitent les Grenoblois? Comment sont leurs logements? Dans quel environnement urbain ils s'insèrent? Le logement est en effet un espace indispensable pour qu'une personne se construise et puisse développer ses activités dans la société. C'est pourquoi il faut rappeler les chiffres inquiétants de la Fondation Abbé Pierre. 3,5 millions de personnes sont mal logées, dont 700 000 sont privées de domicile. Les prix des logements sont élevés, surtout dans les grandes villes, même si aujourd'hui, avec la stagnation économique, les loyers se sont plus ou moins stabilisés. En France, le manque de logements existe donc, principalement pour les revenus modestes. La demande de logement est également importante à cause de l'évolution des formes de cohabitation. De moins en moins de personnes vivent dans un même appartement ou dans une même maison. C'est l'effet des séparations et de l'augmentation des personnes âgées vivant seules. On est aujourd'hui en France à un peu plus de 2 personnes en moyenne par logement. C'est pourquoi l'enjeu de la construction de logements est réel, particulièrement pour les ménages aux revenus modestes. Il est maintenant exigé des agglomérations et des communes de plus de 3500 habitants d'atteindre le seuil de 25% de logements sociaux, sauf pour les zones où la demande de logement n'est pas si importante, où l'exigence reste à 20%. Mais au-delà du logement, il est intéressant de s'attarder sur l'habitat, qui est le logement plus son environnement urbain. Chaque époque a développé sa forme d'habitat. Les immeubles haussmanniens des centres-villes font partie des exemples les plus connus. Mais il y a aussi les grands ensembles des Trente Glorieuses, construits pour accueillir les baby-boomers et les immigrants, les éco-quartiers au tournant des années 2000 qui répondent aux enjeux environnementaux, les maisons individuelles en périphérie qui correspondent au désir des familles d'avoir plus d'espace et de se rapprocher de la nature, et puis l'habitat participatif, dont un des objectifs est d'améliorer le vivre ensemble et qui connaît un regain d'intérêt depuis quelques années. Ce sont donc ces 4 sujets que nous avons choisis pour discuter de l'habitat à Grenoble. Nous allons parler des 4 types de quartiers et leurs correspondants pour mieux comprendre comment on habite la région métropolitaine. Donc les grands ensembles avec l'exemple de la Villeneuve, puis les écoquartiers à travers la caserne de Beaune, ensuite le périurbain et enfin l'habitat participatif avec l'association qui en fait la promotion dans l'agglomération. À chaque fois, on essaiera de comprendre quel est leur contexte de création et d'émergence, quel modèle ils représentent, comment on y habite aujourd'hui et qu'est-ce qui plaît aux habitants dans ces quartiers.
Moi j'habite à Vars,
j'habite à Vallée-Jaurès.
On habite sur Saint-Martin-d'Hères.
Vigny-Musset.
J'habite au village Olympique. Ce qui me plaît, c'est tout le transport qui est facile et puis je suis dans une zone qui est, zone commerciale. Bon, ça m'intéresse.
Entre la Villeneuve et la place des Géants.
D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre quartier?
Le parc.
Moi j'habite vers Louise Michel et il n'y a rien à faire. C'est loin un peu de la ville.
Le quartier de l'Aigle, moi je suis bien. Ben, j'ai tout, les commodités. Hein. J'ai les magasins, les grandes les moyennes surfaces. Puis j'ai les départs des trams dans toutes les directions.
Moi j'habite à Vallée-Jaurès et il y a McDo, c'est bien. Et mon père habite à Clé et c'est la campagne et c'est loin du centre aussi, mais c'est calme, c'est bien.
Moi j'habite du côté de Saint-Martin-le-Vinou, sans hésitation les montagnes.
Moi j'habite à Saint-Nazaire-les-Hêmes et ce qui me plaît c'est la campagne.
On habite sur Saint-Martin-d'Hères, proche de Grenoble. On aime bien parce que la proximité justement de la ville, des activités.
J'habite sur Crolles. Qu'est-ce qui me plaît à Crolles? La proximité de Grenoble, déjà d'une part, et puis la qualité de vie.
Je suis de Voiron, moi. Ce qui me plaît à Voiron, c'est que les gens sont sympathiques et que tout est à proximité.
L'île verte, c'est proche du centre-ville.
J'habitais Chirolles, quartier de la mairie. Il n'y a rien de spécial, sauf que effectivement, je ne suis pas loin de tous les commerces.
À Mistral, tout me plaît. Il y a une bonne ambiance.
Ouais.
Voilà.
Vigny-Musset, proche de tout. À la fois du centre-ville et
de grande place, quoi.
J'habite du côté de la caserne de Bonne, donc près de la place Championnet. Et quartier plutôt agréable, paisible comme aujourd'hui. Un quartier agréable avec un petit point d'eau, la végétation.
J'habite près des parcs Mistral et j'aime bien le parc, mais aussi c'est pas loin de Centre-Ville.
C'était un micro-trottoir réalisé la semaine dernière dans les rues de l'agglomération grenobloise. Vous l'aurez compris, les personnes interrogées répondaient à la question « Qu'est-ce qui vous plaît dans votre quartier ?»
Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous accueillons en studio Serge Gros. Bonsoir Serge Gros.
Bonsoir.
Alors, vous êtes directeur du CAUE de l'Isère, le Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Concrètement, qu'est-ce que le CAUE ?
Alors, le CAUE est une association créée il y a une trentaine d'années par une loi, la loi de l'architecture, hein, qui dit que l'architecture est une des expressions de la culture. Et elle crée des CAUE dans cette loi pour finalement accompagner collectivités, associations, professionnels vers une plus grande qualité du cadre de vie. Et pour ce faire, elle nous donne un caractère d'indépendance qui fait qu'on n'est jamais jugé parti, on n'est jamais maître d'œuvre là où on est conseiller. Et c'est finalement cette posture de conseiller qui fait qu'on est aujourd'hui crédible et qu'on travaille sur plus de 500 communes en Isère, des communes les plus urbaines comme Grenoble jusqu'aux petites communes de haute montagne.
Très bien, alors on commence tout de suite notre discussion avec le premier thème. On a dans les quartiers sud de Grenoble des exemples significatifs de grands ensembles avec le village olympique ou la Villeneuve.
La Villeneuve a été conçue à partir de 1967 environ. C'est un projet qui renvoie peut-être pas à une utopie, mais quand même à une position de l'après-guerre, formulée dans un premier temps par des architectes qui se sont révoltés contre le grand maître Le Corbusier, et qui et finalement, même si on dit que c'est un grand ensemble, en fait, c'est plutôt un projet qui est basé sur une critique des premiers grands ensembles. S'il y a quelque chose qui s'approche de l'utopie là-dedans, c'est l'idée qu'il serait possible de réinventer la forme de la ville pour qu'elle soit adaptée à une société désormais motorisée, une société aussi d'État-providence et des loisirs de masse. Dès le début, le projet a été habité par la classe moyenne. Il y avait évidemment des familles issues de l'immigration. Donc c'était un espace très mixte en termes de sa population. Je pense qu'il y avait à l'époque une forme de réalisme qui consistait à dire, on est dans une société de consommation de masse, comment est-ce qu'on va envisager la ville ? Et il y avait un mélange, je dirais, de méfiance, parfois même une méfiance assez forte, et en même temps un petit peu d'optimisme. Peu à peu, les classes moyennes ont déserté le lieu. Il en reste encore aujourd'hui, il ne faut pas non plus exagérer, mais ce sont des gens qui étaient dès le départ très convaincus du bien fondé de l'approche de cette architecture. Je pense que, par exemple, l'espace de la galerie est en effet un espace qui apporte beaucoup d'aménité et de confort aux gens. Je pense aussi que la qualité des espaces intérieurs des appartements est très appréciable. Il n'y a pas de doute, on est dans un rapport à la montagne, donc qui est exceptionnel. Là où ça marche beaucoup moins bien, c'est au niveau du rapport entre des espaces collectifs et privés. Il y avait un grand optimisme dans ce projet qui se manifestait à travers une sorte de continuité entre les espaces publics du sol et les appartements dans les étages. Les ascenseurs s'ouvrent directement sur la galerie et une fois qu'on est dans les étages, on est dans des coursives qui étaient censées être des espaces de sociabilité entre voisins. Il y a également un système de galeries à R+1 dans lequel on trouve sa boîte aux lettres, etc. Alors là-dedans, il y a quand même des tas d'articulations qui ne marchent plus et qui n'ont peut-être pas vraiment marché dès le début. Tout ça serait à revoir. C'est un espace qui, depuis 10 ans, ou un peu même 15 ans, je dirais, suscite des émotions de plus en plus contradictoires. Et bien sûr que les rénovations récentes ont joué un rôle là-dedans, mais je pense que ce n'est pas que ça. C'est un espace qui est hélas trop coupé du reste de la ville. Et non pas parce qu'il manque de transport en commun, c'est pas ça la question. Le problème est plutôt que si on n'y vit pas, on n'a vraiment pas de raison d'y aller. Et pourtant, Par exemple, le parc est un espace de qualité exceptionnelle. Il y a des équipements qui pourraient aussi avoir un usage à l'échelle de tout Grenoble. Et pourquoi pas imaginer aussi que dans la Villeneuve, qu'il y ait des manifestations culturelles importantes. Voilà, je pense que la grande leçon pour moi et pour mes collègues de la Villeneuve a été de dire qu'une grande partie de ce que nous avons à faire est de revenir avec un peu de patience sur ce qui a été fait et d'y trouver toutes les qualités qu'il peut avoir.
Alors c'était une interview de Steven Mélémis, un membre du collectif de recherche Bazar Urbain qui étudie depuis plus de 15 ans maintenant la Villeneuve et qui vient donc de nous faire une analyse assez complète de la situation actuelle et passée. Alors Serge, comment est-ce que l'on reconnecte un quartier comme celui-ci à un environnement urbain plus vaste ?
C'est une question effectivement très complexe. Je crois qu'il y a Steven a raison de rappeler la générosité de pensée. Il faut se dire qu'à l'époque, on mobilise des équipes pluridisciplinaires pour réinventer un projet collectif d'habitat et de services de manière beaucoup plus engagée, beaucoup plus entière que la plupart des quartiers qu'on est en train de programmer au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, la Villeneuve n'a rien à envier finalement aux écoquartiers. Simplement, peut-être que l'utopie réside peut-être en partie dans le fait que la Villeneuve a été pratiquement dans sa complexité pensée comme une ville autonome dans la ville. Et donc la question des connexions est une réelle question. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a, parce qu'elle était précisément autonome, tournée autour de son parc, avec une très très grande diversité d'offres d'habitat, une très grande diversité aussi d'espace, de statut. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire quartier. On a des commerces, on a des écoles, on a etc. Le tout dans ce principe d'ouverture et de dialogue du vivre ensemble au permanent. Donc c'est à peu près tous les mots-clés que l'on mobilise aujourd'hui dans les quartiers nouveaux. Donc la question, c'est que d'une part, l'abandon à un certain moment par le politique, du système d'accompagnement de la Villeneuve, qui est un objet urbain quasiment fini, c'est peut-être là qu'est l'utopie, et qui demande des aides particulières, des soutiens en termes de services d'accompagnement social, etc., qui n'ont à un moment donné pas été au rendez-vous. Et puis, finalement, après l'engouement général finalement des Grenoblois et des gens venus d'ailleurs pour la Villeneuve, qui est à l'époque, faut bien le dire, un modèle national, c'est un modèle un peu révolutionnaire. C'est un cas d'école que tous les étudiants de France en urbanisme, en architecture viennent visiter et nous envient.
Alors finalement, Grenoble, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'exemplarité. On a aussi le cas de la caserne de Bonne qui a reçu en 2009 le Grand Prix des écoquartiers. Et si on compare à la Villeneuve, où on a donc des formes qui ont été construites pour répondre à un objectif qui est celui de la qualité de vie, on a, en opposition à ce modèle-là, la caserne de Bonne, qui essaie aussi de répondre à cet objectif final, qui est un petit peu considéré aussi comme le Saint Graal, grâce à des objets de la technique. On parle beaucoup d'énergie à la caserne de Bonne. Alors, comment est-ce qu'on répond finalement à cet objectif de la qualité de vie à 30 ans, 40 ans de différence ?
La situation est totalement opposée. Je crois qu'il faut rappeler qu'à l'époque, dans les années 60, le cœur de ville de Grenoble est insalubre encore. À la sortie de l'après-guerre, chacun aspire finalement à la modernité, au soleil, à la lumière et aux services bien ventilés, bien pensés, etc. Donc on est sur ce modèle. Alors qu'à la caserne de Bonne, précisément, on est sur une enclave dans la ville historique, entre les grands boulevards et la ville haussmannienne, comme vous s'était rappelé tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est de composer avec. C'est pas d'inventer une ville ex nihilo, comme à la Villeneuve, en y mettant toute l'intelligence qui a pu être mise, mais aujourd'hui, on repère les limites. C'est de partir de l'existant et en rajoutant un pari qui serait de dire « et si on arrivait à faire quelque chose avec les bâtiments qui restent ?» Donc il y a un concours, il y a un marché d'études et de définitions qui mobilise plusieurs équipes pluridisciplinaires, mais pas sous la forme d'un dialogue soutenu comme à l'époque de la Villeneuve, sous l'égide finalement d'un concours de composition, alors assez formel, avec un programme. Donc là, il est défini ce programme de manière programmée par... par l'autorité, par la maîtrise d'ouvrage publique. Et donc, la forme du concours débouche finalement sur l'idée qu'il y a une certaine souplesse pour savoir quel bâtiment on peut conserver, valoriser, etc. Et donc, la question, c'est vraiment refabriquer à partir de cette ancienne caserne abandonnée par l'armée, finalement, des sutures entre quartiers.
Et alors, très, très brièvement, aujourd'hui, 6 ans après l'installation des premiers habitants, quel bilan est-ce que vous tirez de ce projet qui est aujourd'hui un projet phare de l'agglomération grenobloise en termes d'habitat et d'enjeux pour l'habitat du XXIe siècle ?
Alors, il faut se souvenir que ce projet, il est lancé de manière assez conventionnelle par cette étude de marché de définition, mais que... assez vite, il est relayé par une volonté politique farouche, presque historique, hein, d'un adjoint en particulier, qui a découvert
Pierre Kermen,
voilà, qui est un homme particulièrement charismatique et qui découvre à l'occasion de visites à l'étranger qu'on organise, au Vorarlberg en particulier, que la question...
C'est le CAUE, hein, vous me le disiez tout à l'heure.
Absolument,
qui
voilà.
Qui a organisé ce voyage en Autriche.
Parmi nos attributions, on accompagne beaucoup les élus, mais on essaye chaque fois d'accompagner aussi les professionnels de l'aménagement, les entreprises, les élus, les universitaires, les promoteurs, dans l'objectif de leur faire découvrir d'autres perspectives. Et là, c'est réellement le choc culturel du fait qu'avec l'amélioration thermique et environnementale, on peut véritablement améliorer la qualité de vie des habitants. Et là, les élus de Grenoble décident d'aller bien au-delà des normes thermiques pour faire en sorte que ce projet renforce encore sa mixité et puis lance le défi, finalement, de la haute performance environnementale et énergétique.
Bon, c'est un sujet qui est très vaste, hein, on le comprend bien, mais on y reviendra dans nos prochaines émissions. En tout cas, on va pour le moment marquer une courte pause musicale.
Si tu savais le temps qu'il fait dans cet appartement, il pleut des semblants de beauté qui s'écrasent sur le plancher. J'ai déserté les environs depuis quelques millions d'années. Comment tu sais que je tourne pas rond? Comment t'as deviné que je pète les le temps qu'il faut pour se défaire de ses chaînes? On a beau faire de la peine, c'est toujours soi qu'on désespère. Dans mon coin, je lève le poing et mon verre à la santé de ma peine. Je serre les dents en attendant que ça s'arrête, que ça s'arrête. J'ai pas eu le choix.
On vient d'écouter le morceau intitulé « L'appartement » de l'artiste Mel.
Alors on passe maintenant aux éphémérides de l'habitat dans l'agglomération grenobloise. C'est une nouvelle chronique de Gracianopolis qui dresse un portrait chiffré du thème de l'émission. Alors Yvan, quelle est la part des propriétaires à Grenoble ?
La moitié sont propriétaires, un tiers sont locataires privés et la quinzaine de pourcents restants d'habitants sont locataires HLM.
Et ils habitent dans quel type de logement ?
Les logements sont pour un quart des maisons et pour trois quarts des appartements, mais il y a très peu de maisons sur la commune de Grenoble, bien sûr, et près de 75% dans les communes périurbaines.
Et combien nous coûte-t-il alors d'habiter à Grenoble ?
Les loyers hors charges sont un peu chers dans le parc privé à Grenoble, environ 10 euros du mètre carré. Mais ces prix tendent à se stabiliser ces dernières années. Dans le logement social, les prix sont plus abordables, environ 6 euros du mètre carré. Pour acheter, la moyenne est de 2200 euros du mètre carré avec des sommets à Courant et des prix plus attractifs à Pont-de-Clé.
Et alors, qui peut avoir accès aux logements sociaux ?
Aujourd'hui, un peu plus de 20% des Grenoblois vivent dans les logements sociaux. Mais plus de 50% y sont éligibles, du moins aux logements sociaux les plus courants.
Et de quand datent les logements dans l'agglomération ?
Deux tiers des logements ont été construits avant 1975 et le choc pétrolier, ce qui soulève la question de la rénovation énergétique.
Et alors, à quel rythme construit-on actuellement ?
Environ 2000 logements par an, dont la moitié de logements sociaux. On construisait un peu plus avant la crise de l'immobilier et moins actuellement.
Et y a-t-il des migrations internes à l'agglomération ?
Bien sûr, environ 12 000 personnes déménagent chaque année à l'intérieur de l'agglomération, en général pour s'installer en périphérie et le plus souvent dans une maison individuelle.
Alors cette dernière question nous permet d'enchaîner tout de suite avec le troisième thème de cette émission qui est consacré, je le rappelle, aux formes innovantes d'habitat à Grenoble. Nous abordons tout de suite le thème du périurbain qui est depuis le début des années 2000 au cœur des problématiques territoriales. Nous en avons parlé dans l'émission précédente consacrée à la mobilité et qui, je le rappelle, était en compagnie de Gabriel Jourdan. Donc le périurbain est un modèle qui dépend largement du véhicule individuel qui coûte cher à l'environnement. L'étalement urbain de la seconde moitié du XXe siècle a grignoté les vallées du Y grenoblois et même attaqué les flancs des massifs montagneux. Alors Serge Gros, où en est la situation actuelle de l'étalement urbain et reste-t-il des terrains disponibles pour accueillir de nouvelles maisons ?
L'étalement urbain est largement un peu enrayé dans son évasion galopante. Il faut savoir qu'en 40 ans, on a construit plus qu'en 3 siècles, et ça de manière définitive, en général, sur les terres les plus fertiles qui entouraient les villes traditionnellement, qui avaient été travaillées depuis des siècles. Et donc c'est quand même une consommation qui est totalement irréversible. Aujourd'hui, je crois que la plupart des documents d'urbanistes ont acté sous la pression de la loi, mais aussi de la prise de conscience, en fait, qu'on fabriquait avec cet étalement urbain des migrations quotidiennes qui rendent la vie dans le périurbain, mais aussi la vie en ville, très difficile, liée à la pollution. Et en fait, la situation géographique de Grenoble nous amène à nous poser la question de nos modes de vie collectivement à l'échelle du grand territoire de manière beaucoup plus aiguë que la plupart des villes françaises, compte tenu des contraintes liées à la géographie et les montagnes.
Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le périurbain grenoblois des innovations en termes d'habitat ?
Bah, pour nous, les innovations, elles sont de la reconquête urbaine, elles sont de la reconstruction, ce que dans le jargon on appelle de la ville sur la ville. Et j'ai en tête, par exemple, des maisons individuelles qui sont rachetées par une collectivité ou par un bailleur et qui, à la place d'une maison, peuvent abriter 5, 6, 10 logements sociaux ou avec des statuts mixtes. Et là, on ramène de l'intensité de vie dans des quartiers qui sont aujourd'hui des quartiers vieillissants, en particulier sur toute la première couronne de l'agglomération.
Alors, ces nouvelles formes d'habitat, on va en parler tout de suite dans le quatrième thème de cette émission, qui est consacrée, je le rappelle, donc à l'habitat dans la métropole grenobloise. Et pour cela, nous avons rencontré Gérard Vabre de l'association Les Habiles, une association qui a pour but de favoriser l'émergence et la réalisation de projets d'habitat groupés en Isère.
L'habitat participatif, c'est la propriété d'usage. C'est un projet d'habitant qui porte pour eux-mêmes un besoin de disposer de parties privatives, donc familiales, intimes, et de parties collectives. Dans l'habitat participatif, on retrouve toutes les formes juridiques classiques de la copropriété, sous une forme plus collective d'une SCI par exemple, ou aujourd'hui des coopératives d'habitants. L'habitat participatif est moins cher, mais l'argent qui est économisé sur la promotion par rapport à une promotion privée est remis dans le groupe pour acquérir les parties communes ou les construire, ou pour améliorer les matériaux et le projet immobilier dans son ensemble. Les étapes sont d'abord la connaissance de chacun, de chaque membre du groupe. Ensuite, il faut que les personnes partagent des valeurs qui leur sont communes, mettent en commun les aspects techniques, les compétences, l'aspect financier, et puis repèrent un terrain dans lequel va se décliner le projet. Alors, ce terrain, ça peut être un immobilier existant, ça peut être un terrain nu dans lequel il y aura une nouvelle construction. Les premiers projets qui sont repérés sur le territoire sont à Mélan, dans le quartier des Béalières, dans lequel il y a 3 projets d'habitat participatif, dont un a la particularité d'être en locatif social. À l'origine, les personnes qui portaient ce projet-là se sont repérées comme n'étant pas en capacité d'accéder à la propriété, ont recherché un bailleur social pour porter le projet. Et donc c'est Pluralis qui, depuis 1985, est le propriétaire de l'immeuble et qui a donné pouvoir d'usage aux habitants de construire et de maîtriser le projet immobilier qui est développé donc depuis 1985. Il s'ouvre sur l'extérieur du quartier, sur son environnement. La salle commune sert souvent à des réunions d'associations du quartier, à accueillir une AMAP par exemple. Et l'habitat participatif, ça sert aussi à montrer une autre forme d'habiter que celle qui est déclinée d'une manière plus classique, traditionnellement.
Alors Serge Gros, quel regard portez-vous sur l'habitat participatif? Est-ce qu'il permet de sortir des logiques traditionnelles d'accession à la propriété?
De toute évidence, hein. Je crois que d'abord, il faut dire que c'est pas très nouveau, hein. Ça fait plus de 40, 50 ans. Enfin, on a toutes les générations ont produit ces formes de regroupement pour concevoir un habitat. Ce qui est très marquant, c'est que finalement, à l'inverse finalement du raisonnement ordinaire qui programme à partir de données statistiques en disant il faut un T1, T2, T3, T4, là on fabrique du logement sur mesure en donnant la parole à l'habitant. Et en donnant la parole à l'habitant, on fait le pari de l'intelligence, c'est-à-dire on fait le pari de l'intelligence et du dialogue. Nous on est frappé du fait que dès qu'on rassemble 2 ou 3 personnes autour d'une table, très vite, ils se posent les vraies questions. Et ça génère des vrais projets qui sont des réponses tout à fait originales et sur mesure sur des lieux qui sont de plus en plus contraints. Et donc, c'est une alternative très intéressante pour les familles qui s'y engagent, mais c'est pour nous un modèle et une méthodologie qui peut tout à fait s'envisager à l'échelle du projet urbain.
Alors, est-ce que l'habitat participatif est considéré comme une voie d'avenir pour la construction de logements à Grenoble ?
L'habitat groupé d'une une voie d'avenir est le processus qui donne la parole beaucoup plus fortement que précédemment aux habitants et qui vont ensuite composer avec l'intérêt général, est une voie de toute évidence d'avenir.
Merci pour ces éléments de réponse. Et nous passons maintenant à la question finale de cette émission. Et comme à notre habitude maintenant, c'est une question que l'on pose à tous nos invités. Et la question est, qu'est-ce que pour vous la métropole grenobloise ?
La métropole grenobloise, c'est une chance extraordinaire finalement de réconcilier l'environnement urbain qui commence à être assez marqué par les constructions et un cadre de vie exceptionnel. On a une diversité de situations qu'on évoquait tout à l'heure en début d'émission. Chaque quartier évoque des choses, mais aussi chaque ville, chaque village, chaque posture, selon qu'on est adossé à tel ou tel massif. Et derrière, pour nous, sous-tend une manière d'habiter singulière. Donc la métropole, c'est enfin pouvoir construire un projet collectif à l'échelle du territoire et de faire en sorte que la programmation, la réflexion prennent acte des modes de vie qui se pratiquent déjà. Il faut intégrer ces modes de vie et les mettre en perspective pour amener encore plus de facilité et de qualité à tous les étages, que ce soit au cœur de ville comme sur les flancs des montagnes.
Ce troisième numéro de Gracianopolis touche à sa fin. Avant de vous quitter, on souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à la construction de cette émission consacrée à l'habitat dans la région métropolitaine. Merci à vous, Serge Gros, d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Radio Campus. Merci également à Gérard Vabre, Steven Mélémis et Anne Potéchet pour leur disponibilité et nos discussions. Yvan, nous, on se retrouve le mois prochain pour une émission que tu animeras et qui sera consacrée à l'économie. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre audioblog mixcloud.com/gracianopolis et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Campus Grenoble 90.8.